Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Par les temps qui courent, ce soir, rencontre avec le metteur en scène Philippe Nicole, l'un des 26 000 couverts.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus 21 ans.
Romain de Bec de Lièvre.
Et c'est que le monde dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Sur la scène, comme dans une revue, on verra se succéder entre autres un dresseur de tentes quechua, un chef indien, des cow-boys avec des flûtes à bec, le dernier numéro du chien acrobate Yuki, en son absence car il est décédé, et une parade amoureuse de cartons de déménagement. Nous autres spectateurs sommes invités à un cabaret sous l'égide des Beatles, de la musique, et parmi d'autres spectateurs parfois réfractaires. La scène est celle de l'Idéal Club, c'est un cabaret, c'est un spectacle, et c'est, comme l'annonce la troupe des 26 000 couverts qu'il a créé, juste pour faire et se faire du bien. Bonsoir Philippe Nicole.
Bonsoir.
L'Idéal Club, c'est le titre du spectacle que vous avez créé avec votre troupe, les 26 000 couverts. Il se joue au Montfort Théâtre à Paris jusqu'au 12 janvier. Merci d'être là.
Merci de votre invitation.
Je vous propose qu'on commence par une émission de radio, on relance un générique.
Je suis ce soir entouré de personnes un peu particulières. Ce sont des acteurs, des musiciens, et qui ne sont ni véritablement un groupe, pas tout à fait une compagnie, ni même une troupe, mais en même temps qu'ils sont un peu tous là, ce sont les 26 000 couverts. Alors, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Hubert.
Bonsoir.
Donc, en marge de l'Idéal Club, un spectacle, un musical sur le thème de l'idéal que vous tournez en France depuis quelques années, j'ai voulu vous réunir et vous questionner sur ce concept d'idéal. Mais d'abord, en introduction, l'idéal, est-ce véritablement un concept finalement? Ne sommes-nous pas plutôt en présence d'une notion? On pourrait reformuler cette question en se demandant dans quelle mesure la généralisation de la notion en tant qu'objet confronté à sa propre existence renouvelle les fondations d'un concept qui serait lui-même en train finalement de s'auto-formuler, puisque selon la définition de Spinoza...
Mais
qui vous a laissé entrer enfin?
On est en train d'enregistrer, enfin, quand il y
Philippe Nicole, on écoute un extrait d'une fausse émission de radio que vous avez faite avec votre compagnie, les 26 000 couverts, autour de votre spectacle L'Idéal Club, qui s'appelle Théâtroscopie. Pourquoi vous est venue cette idée de faire une émission de radio en plus de ce spectacle?
Bon, d'abord parce qu'on adore la radio, j'adore personnellement la radio, je trouve que c'est un média intime, chaleureux, et en même temps qui conserve toujours ce mystère des voix, le fait qu'on ne connaisse pas les visages et tout ça. Et il me semblait que c'était une bonne déclinaison à partir du spectacle, qui est quand même lui quand même en grande partie visuel, pour les gens qui l'auraient vu, de revenir réentendre quelques déclinaisons à partir de ce qu'ils ont vu. Donc là, au théâtroscopie, oui, avec la musique qu'on retrouve, du spectacle qu'on retrouve, donc bah, pour les gens que ça intéresse, donc ça c'est toujours sur notre site, il y a un bouton, ça s'appelle l'Idéal Radio, et il y a plein de petites émissions comme ça.
On entend dans Théâtroscopie quelque chose qui est de l'ordre de l'indistinction. Enfin, on va essayer de définir ce que c'est. Et comme je disais en introduction, l'Idéal Club, on ne sait pas si on est exactement dans un cabaret, dans un spectacle. Est-ce que maintenir cette forme comme étant indistincte, c'est quelque chose qui vous intéresse?
Mais sûrement, c'est vrai que c'est une forme de viatique pour moi d'échapper aux classifications, d'échapper aux cases. C'est vrai qu'on est dans une époque, et je pense aussi un pays qui a tendance à tout classifier, à tout mettre dans des bonnes petites cases bien fermées. Une fois que c'est rangé, on n'en parle plus. Et il me semble que c'est notre rôle, je pense à nous artistes, mais également compagnie, de nous qui travaillons sur l'éphémère, sur le présent, l'époque, le réel, justement, de tout faire pour échapper à ça. Moi, ça a toujours été une sorte de... Ouais, de quelque chose qui m'a toujours guidé, que d'échapper à ce que j'avais déjà fait, que d'échapper à où on nous met aussi, mais aussi pour nous d'échapper aussi à notre zone de confort, toujours découvrir de nouvelles choses et de sortir des cases, ouais.
On entend ce mot-là, le mot idéal qui est prononcé dans cette émission de radio. Est-ce que ça a été le mot point de départ pour ce spectacle-là? Alors, où est-ce qu'il est apparu en cours de travail?
Oui, non, je dirais, enfin, si on veut reprendre un peu la jeunesse de ce spectacle, c'est vrai que ce spectacle, il est né plus à partir d'un esprit presque festif, parce que, donc, comme je le dis dans le spectacle, on a eu l'occasion d'organiser une sorte de festival chez nous, donc, à Dijon, hein, en Côte d'Or. Et on a reçu beaucoup d'artistes, de gens qui et le soir il fallait se réunir autour d'un moment festif, et c'est comme ça qu'on a proposé des petites impros, des sortes de bœufs théâtraux entre des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de se côtoyer, et puis sont nés des numéros, des sketchs, des tours, et voilà, l'idée du musical est née de cette façon. Et je pense qu'à cette époque l'idéal, j'aimais d'abord beaucoup ce titre, l'Idéal Club. Je trouve que là-dedans il y a une sorte de potentiel, quelque chose de caché dans ce titre, le côté club, ce côté un petit peu privé, comme une sorte de boîte de nuit, et l'idéal, enfin comme voilà, une sorte d'oxymore là-dedans, parce que l'idéal c'est quelque chose justement que normalement on partage tous. Puis, oui, c'est ça. Il y avait une façon d'opposer cette forme un peu, comment dire, un peu très populaire du cabaret, du musical, et puis cette notion plus élevée, plus éthérée de l'idéal, du rêve, de l'utopie. Voilà, ça me semblait intéressant de faire se côtoyer ces deux notions-là.
Ce qu'on entend aussi, c'est l'idée de critique, en tout cas d'un spectacle, enfin dans la catégorisation. L'Idéal Club, c'est un spectacle qui va articuler beaucoup aussi la critique du spectacle à l'intérieur du spectacle. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui a été déterminant?
Ah bah c'est sûr, mais ça je crois que c'est quelque chose qui caractérise, j'imagine, beaucoup notre travail, même si c'est difficile pour moi d'en parler avec un peu de distance, mais il me semble qu'il y a toujours cette sorte de mise en distance, mise en abîme presque de ce qu'on fait. Il y a certains spectacles qui ont même poussé beaucoup plus loin cette idée de se regarder faire, cette idée d'autofiction collective, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait le spectacle, on parle de comment on a créé le spectacle, comment on le répète, comment on écrit ensemble, comment on vit le présent de la création. Donc c'est vrai que dans l'Idéal Club précisément, il y a des moments donc où le public est donc témoin de moments de répétition ou de moments presque d'écriture collective. Donc c'est deux situations, de conventions théâtrales complètement différentes, comme si on les convoquait une sorte de flashback où ils ont droit, enfin où ils nous voient donc un peu triés dans des idées les plus débiles, ce qu'ils vont voir en direct. Donc jusqu'à même se faire se côtoyer la répétition et la forme plusieurs mois après, ce qui crée forcément quelque chose d'assez spectaculaire. Mais oui, cette idée bien sûr de se voir faire, je crois que c'est très 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 postmoderne, enfin très 21e siècle certainement. Je pense qu'on n'est pas les seuls, énormément de compagnies font ça, mais même plein d'autres artistes dans d'autres domaines sont dans la déconstruction, reconstruction, démystification de leur travail, et voilà, on est tous là autour, je crois qu'on c'est quelque chose d'assez commun en fait.
L'Idéal Club, c'est un spectacle qui a été créé il y a quelques années, en 2010.
Oui.
Qu'est-ce que ça fait de voir cette forme? Est-ce que vous l'avez vu évoluer?
Absolument, bien sûr. Puis c'est très important. Enfin, il me semble que dans le spectacle vivant, il faut absolument que la chose reste vivante. Et donc rester vivant, c'est évoluer, c'est grandir. C'est donc en effet, l'Idéal Club a pris plein de formes. D'abord parce qu'on avait des contraintes scéniques, donc très 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 bêtes, très terre à terre. Mais étant donné qu'on a créé ce spectacle sous chapiteau, puis qu'après on l'a adapté pour des salles, toutes sortes de salles polyvalentes, salles des fêtes. Puis après qu'on nous a proposé de le faire sur des scènes type Montfort, mais même parfois beaucoup plus grandes. Dans certaines villes, on a quasiment fait des sortes de petits zéniths avec avec des grosses jauges et tout ça, ça a fait aussi qu'il a fallu qu'on fasse évoluer ce spectacle. Et puis encore une fois, un spectacle notamment comique, quoi. Il est toujours retravaillé, il est toujours rebricolé, parce que c'est important, sinon il se dévitalise très vite et on perd ce qui fait la grâce, le charme, la vie en fait d'un spectacle s'il n'est pas sans cesse remis en question. Donc c'est aussi un peu mon rôle de le rebricoler à chaque fois. Donc en effet, il évolue énormément. Ouais.
Il y a un temps qui est assez idéal pendant les répétitions où tout est possible.
C'est quand vous proposez chacun des choses, sans avoir encore de rôle.
Voilà, Ariane nous dit, on a le droit de tout essayer.
Ça se crispe au moment où on sort la feuille jaune de distribution.
Là, c'est Ariane qui décide.
En fait, cette feuille, elle est rituelle aussi au Théâtre du Soleil. Elle arrive un jour et il y a des colonnes avec les noms des rôles et les noms des comédiens. Il y a des croix, genre peut-être,
à proposer.
On n'aime pas trop cette feuille, généralement. Et puis des fois, on dit, mais je ne comprends pas, moi j'ai proposé là, pourquoi je ne suis pas là, ma cochée. Et puis, alors, on essaye de faire dire par quelqu'un, tu ne veux pas te rappeler de cette improvisation-là où j'ai proposé, peut-être on pourrait cocher.
Sur le coup, ça paraît un peu... On n'ose pas le raconter à nos amis parce que c'est tellement improbable, les choses que l'on fait.
Parce que c'est toujours pareil, on a jamais d'argent, enfin, jamais assez. Non, mais c'est vrai, je veux dire, moi je me rappelle très bien d'avoir tamisé une caisse entière de sel qu'on avait mis pour faire de la neige, dans laquelle il y avait des flocons de papier, pour pouvoir après teindre le sel avec des pigments, pouvoir faire du sable avec. Donc c'était aussi fou que ça, je veux dire, on est absurde de faire ça, mais à un moment, on n'a pas l'argent pour acheter du sable, on a du sel avec des flocons, ben, y a quelqu'un qui fait rien, mais on va tamiser pendant des heures. J'étais dans la cage en train de tamiser, je me disais, pourquoi je fais ça? C'est pas grave. Bon, je crois que la scène où il y avait le sable, elle n'a pas été gardée.
Philippe Nicol, on écoute une archive de France Inter en 2012, un reportage au Théâtre du Soleil fait par Vincent Josse, où on entend ce travail de troupe et de création collective tout à fait particulier du Théâtre du Soleil. Vous, les 26 000 couverts, quand on voit l'Idéal Club, on voit aussi ça. On voit l'organisation collective, on voit le travail d'un collectif et qui fonctionne notamment par un système qui est un système de proposition. Comme si les comédiens, vous êtes dans le public souvent, dans le rôle du metteur en scène, et les comédiens proposent des choses, vous proposent des choses, et vous dites, ça c'est bien, ça c'est pas terrible, et éventuellement comme ça. Est-ce que c'est comme ça que ça marche?
Bon, c'est une mise en scène, ce qu'on voit, c'est bien sûr quelque chose qui a été réglé, mais c'est finalement assez proche d'une forme de réalité. Bon, après, tout dépend vraiment du spectacle, du projet, on n'a pas une méthode particulière, enfin, toujours la même.
Hein. Chaque spectacle appelle sa méthode?
Ah oui, vraiment, oui. Oui, notamment sur les modes d'écriture, parce que bon, bah, le mode d'écriture, de toute façon, c'est toujours une sorte d'aller-retour entre effectivement ma proposition ou nos propositions. S'il y a une sorte de petit collège d'écriture, bon, bah, disons pour aller vite, ma proposition et les propositions des acteurs, musiciens, techniciens, il y a aussi tout ça, parce qu'on est aussi dans ce grand bain. Moi, j'essaie toujours de mettre en place un moment. Une sorte de grand bain, de grande soupe où, sans pression, on a le droit de tout essayer. J'entendais ça justement dans le sujet là. Et ça, c'est très important parce que, pour justement, garder cet aspect ludique, très enfantin, très naïf, presque puéril des choses. Et parce que je pense que sans cet état-là, non pas régressif, mais encore une fois, enfantin, voilà, et ça, je pense qu'on aurait. Il n'y aura pas le même intérêt pour ce qui se passe, l'aspect comique, il serait moins. Bon, en tout cas, voilà. Mais on est toujours dans cet aller-retour-là. Donc, moi, en général, j'arrive avec une idée, souvent l'idée du spectacle, un concept, un titre, quelque chose que j'aurais envie de mettre un peu plus en valeur. Et les acteurs, avec moi, bien sûr, mais les acteurs trouvent des choses qu'on réaffine, que je réécris, que je retrie. Et puis voilà, tout ça d'une sorte, voilà, de perpétuel aller-retour entre eux et moi, qui est aussi facilité par un aspect technique de la création, étant donné que nous on travaille beaucoup sous forme de résidence, c'est-à-dire qu'on part dans ce qu'on appelle des lieux de fabrique ou des lieux qui vont nous aider à qui nous mettent à disposition des outils de travail. Donc c'est souvent des 10 jours, des 15 jours, mais espacés avec des jours où il se passe rien entre. Donc là, ça me permet pour moi de trier, de réécrire. Donc voilà, c'est aussi cet aspect technique qui fait aussi l'écriture, une façon bien particulière de créer ensemble.
Qu'est-ce qui est intéressant pour vous dans le fait de montrer justement ça à la résidence, le moment où on crée ensemble ? C'est parce que c'est vraiment là que ça s'est fait et qu'il faut en garder la trace.
Oui, puis oui, en effet, je pense qu'il y a un aspect plus ou moins, non pas exemplaire, mais il y a quelque chose. En tout cas, les spectateurs voient des individus, des êtres humains collaborer, travailler ensemble dans une relation qui soit pas justement complètement pyramidale, tyrannique. On est dans une recherche un peu utopique de travailler ensemble, fonctionner ensemble dans l'idée d'un collectif. Ça, je le mets quand même toujours en avant, même si j'ai pas particulièrement de leçons à donner à ça, mais je me retrouve dans ce que chez Mnouchkine, il y a cette expérience-là, qui a eu des hauts et des bas, qui a aussi vécu, parce qu'il y a une époque, on réagit aussi à notre époque et à notre génération, mais on est quand même dans cette quête avec 26 000 couverts, qui a vécu aussi pas mal d'avatars, pas mal de transformations au terme de nos plus de 20 ans d'existence maintenant. Mais surtout, il y a un potentiel comique parce que c'est surtout les ratés qu'on montre dans l'Ideal Club. C'est ces propositions dont on ne sait que faire parce que comment les mettre en valeur. Du jonglage de seins, par exemple. Alors comment l'idée est pas mal, mais comment on va le mettre en place, du trapèze au sol, du trapèze sans trapèze. Pourquoi pas, mais faut voir. Et c'est vrai que ça rend aussi tout ça assez sympathique. Et quelque part, je pense qu'il y a aussi une forme de. Une façon de nous mettre les spectateurs aussi avec nous, parce qu'ils nous voient, ils participent à cette recherche et en même temps, ils en voient les fruits quelques minutes plus tard.
Il y a l'idée de ne pas se prendre pour des artistes ?
Certainement, c'est vrai que ce mot il fait peur, il met à distance les artistes, ils ont quand même tendance à pas mal nous fatiguer, surtout quand ils se prennent au sérieux. Enfin, en tout cas, l'idée de pas se prendre au sérieux, ça oui, bien sûr, très important. Enfin, pour moi, personnellement, c'est vraiment une posture hyper importante. J'ai trop vu des artistes qui nous donnent des leçons de vie, qui se prennent au sérieux. Pour moi, c'est impossible, quoi. Le monde est trop, justement trop sérieux pour qu'on se prenne au sérieux. Enfin,
Les 26 000 couverts, c'est une compagnie, un groupe qui a commencé notamment dans les arts de la rue.
Oui.
Qu'est-ce que ça a apporté, la rue ?
Énormément de choses. D'abord, je pense que c'était vraiment pas hasard si on a commencé là-dedans. C'était véritablement un choix à l'époque. C'était, je dirais que les réseaux étaient peut-être un peu moins fermés à la fin des années 90. On avait peut-être encore un peu le choix parce que maintenant, je vois vraiment beaucoup des gens qui vont dans la rue parce que juste, ils savent pas trop où aller ailleurs. Enfin, les portes leur sont encore fermées. Je pense qu'il y a encore plus de compagnies qu'avant, moins de lieux culturels aptes à les recevoir, etc. Mais à l'époque, c'était vraiment un choix donc d'échapper justement au carcan des scènes fermées, du théâtre bourgeois, du théâtre justement dans le contemporain, dans cette branlette intellectuelle qui parfois va trop loin et surtout qui sélectionne trop son public. Pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense qu'un bon public, c'est un public mélangé. C'est vraiment important de parler en même temps aux riches, aux pauvres, aux jeunes, aux vieux, à l'intello comme aux populos. C'est très important pour moi. Je pense aussi que c'est nos origines sociales qui parlent, en tout cas la mienne. Moi, je suis pas particulièrement d'un milieu particulièrement favorisé. J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents relativement éclairés et donc j'ai eu la possibilité d'avoir le choix, on va dire juste. Mais c'est pas le cas de beaucoup. Et il me semble que voilà, cet aspect, le théâtre, il peut et il doit participer au lien social, à cette ouverture vers d'autres choses. J'y crois beaucoup et c'est pour ça que je pense que le travail de 26 000 couverts se situe là-dedans, dans un rapport quand même populaire, même si bien sûr l'idée c'est pas perdre son pantalon à chaque fois, de faire des gros gags et d'être dans une vulgarité, pas du tout. Mais en revanche, d'être dans un travail sur des différentes couches d'appréhension, de compréhension de ce qu'on fait, et de façon que les gens rient pas forcément au même endroit, mais qui rient au même moment, dans le même temps de la représentation, et qu'eux-mêmes communient avec nous dans quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus haut.
Dans l'archive du Théâtre du Soleil qu'on entendait aussi, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la polyvalence. Enfin, l'idée que les comédiens peuvent aussi s'engager, mettre la main à la pâte, faire des activités qui soient bien autres que celles proprement ou simplement artistiques. Est-ce que c'est une notion qui compte pour vous aussi?
Bien sûr, tout à fait, absolument. Oui, parce que d'abord c'est dans cette tradition, je crois vraiment du saltimbanque qui sait tout faire. Il y a cet aspect encore une fois, c'est un peu notre storytelling aussi, ce côté un peu mythique de dire ouais, ils sont doués, ils savent tout faire, même si évidemment c'est pas le cas, mais on a l'impression en voyant l'Idéal Club en effet, parce qu'il y a, il y a en même temps un grand ensemble musical, les musiciens jouent, font du karaté ou les cow-boys, et inversement les acteurs sortent les saxophones parfois et tout ça. Mais il y a également, à 26 000 couverts, une vraie tradition du partage des tâches et notamment de cette polyvalence, parce que j'ai toujours considéré que, un acteur qui fait un peu de technique, qui va décharger un camion, qui va installer du matériel, il va se mettre à respecter beaucoup plus le technicien qui côtoie chaque jour en disant, ah ouais, son boulot finalement, c'est pas si simple. Et inversement, le technicien qui va avoir 2-3 répliques, il va se dire, ah ouais, finalement, les acteurs, c'est pas que des gros feignants qui attendent que le camion soit déchargé. Et c'est vrai que 26 000 couverts a toujours été dans cette logique-là. Moi, quand j'embauche un acteur, c'est quasiment une des choses les plus, enfin, que je vais dire dès le début. On monte tout ce décor, on décharge, et tant que les camions sont pas fermés, on c'est pas fini, et voilà, tu l'acceptes, tu l'acceptes pas, mais c'est le deal de départ, et à chaque fois ça se passe vraiment bien, parce qu'il y a une sorte de compagnonnage, enfin, ça veut rien dire, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup plus de solidarité, un partage des savoirs, partage des tâches, et aussi un respect mutuel qui vient s'installer là.
Vous parliez de sérieux tout à l'heure, je vous propose qu'on écoute une archive sur le rire.
Voyons maintenant comment on devra s'y prendre pour créer une disposition de caractère idéalement comique. Comique en elle-même, comique dans ses origines, comique dans toutes ses manifestations. Il la faudra profonde pour fournir à la comédie un aliment durable. Superficielle cependant, pour rester dans le ton de la comédie. Invisible à celui qui la possède, puisque le comique est inconscient. Visible au reste du monde pour qu'elle provoque un rire universel. Pleine d'indulgence pour elle-même, afin qu'elle s'étale sans scrupule. Gênante pour les autres, afin qu'ils la répriment sans pitié. Corrigible immédiatement, pour qu'il n'ait pas été inutile d'en rire. Sûre de renaître sous de nouveaux aspects, pour que le rire trouve à travailler toujours. Inséparable de la vie sociale, quoique insupportable à la société. Capable enfin, pour prendre la plus grande variété de formes imaginables, de s'additionner à tous les vices, et même à quelques vertus. Voilà bien les éléments à fondre ensemble. Le chimiste de l'âme, auquel on aurait confié cette préparation délicate, serait un peu désappointé, il est vrai, quand viendrait le moment de vider sa cornue. Il trouverait qu'il s'est donné beaucoup de mal pour recomposer un mélange qu'on se procure tout fait et sans frais, aussi répandu dans l'humanité que l'air dans la nature. Ce mélange est la vanité.
Philippe Nicole, on vient d'entendre une lecture, une archive des Chemins de la philosophie, une lecture par Jean-Louis Jacopin, du texte d'Henri Bergson, qui s'appelle Le Rire, peut-être un des textes les plus sérieux qui ait jamais été écrit sur le rire. Comment vous la recevez, cette archive?
Bon, c'est sûr que ça impose forcément une certaine distance, parce que parler sérieusement du rire, en effet, c'est... Mais je sais que... ouais, pas mal de gens sont penchés sur la question, hein, le rire, le propre de l'homme, c'est quelque chose qui nous dépasse. Moi, en tant que artisan du rire, aussi, j'ai essayé de dégager de mes quelques expériences, une certaine théorie, donc j'en aurais quelques-unes, mais un peu plus appliquées vraiment à la matière. Après, philosophiquement parlant, après Bergson, je vois pas trop ce que je pourrais ajouter.
Il y a l'idée que le rire, c'est un mélange. Ou en tout cas, c'est une forme mixte. Vous seriez d'accord avec ça ?
Je doute toujours d'une affirmation philosophique qui serait pas accompagnée d'un éclat de rire, quoi. Il me semble que, enfin, c'est pour moi une posture philosophique première que de rire, quoi. Parce que, encore une fois, le rire, c'est ce qui vraiment nous rend humains, peut-être encore plus que la pensée et que le cerveau. Et c'est une façon de se mettre à distance et de développer un autre rapport au réel qui soit autant intellectuel que physique. Et il me semble important de le mettre peut-être en avant, parce que bon, Bergson, bon, d'après mes souvenirs, il parlait pas que de cette théorie-là, mais il parlait aussi de l'aspect mécanique du rire qui est vachement important, que nous on utilise peut-être un peu plus dans notre rapport au burlesque, parfois cet aspect vraiment le rire étant le point de rupture entre deux forces qui sont en tension, qui sont donc le mécanique, la machine et l'humain, c'est-à-dire en gros soit c'est ça se passe au moment où on interrompt un rapport répétitif qui fait par exemple Chaplin quand il est dans la machine là, les tapis roulants et tout ça, et qui se trouve embarqué là-dedans et il devient lui-même une machine, le rire naît. Ou alors encore ou quand c'est l'interruption de ça, c'est-à-dire je marche, je bute contre quelque chose, j'interromps donc la mécanique de la marche, et le rire est provoqué parce que je tombe et que je perds mon pantalon. Et ça m'a pas mal intéressé au niveau purement mécanique, quoi, comme un mécanicien aussi, parce que moi c'est un peu comme ça que je me définis parfois par rapport au comique, hein, parce que le comique n'est pas plus précis. Et donc dans l'Ideal Club, par exemple, hein, qui est quand même un spectacle d'une succession de sketchs,
de numéros,
parce que ça se dit plus, mais j'adore ce mot.
On peut le dire.
De numéros et qui nécessite une précision en fait absolue. Et les gens nous disent vous devez vous marrer, on a envie de rigoler avec vous et tout ça, mais en fait ils ont pas conscience, et tant mieux, que c'est finalement un gros travail de précision. Et souvent je pense à ma fonction, à mon boulot de metteur en scène, notamment quand on est en tournée, c'est-à-dire quand le travail de création est fini quasiment, en tout cas 99%, je me pense souvent comme une sorte de mécanicien au stand où il y a des Formule 1 qui tournent, et de temps en temps, chaque jour, je revisse un peu, il y a du jeu là-dedans, alors je leur donne un petit coup de clé, et c'est beaucoup, ça fait partie beaucoup de notre profession.
Dans le travail de numéro, oui, il y a l'idée d'aller chercher le rire en tout cas. Effets de chute, par des effets qui sont multiples et assez différents justement et propres à chaque numéro, ce serait ça d'après vous, aller chercher le rire ?
Oui, enfin, oui, l'Ideal Club, alors absolument, et je le revendique, c'est un spectacle où j'espère qu'on rit, et c'est par le rire qu'on trouve encore une fois cette communion, parce que encore une fois, c'est le fait qu'on rit, enfin, c'est un rire aussi qui est un humour qui est peut-être pas exactement celui qu'on trouve tout le temps, c'est un humour peut-être un peu plus universel, on est moins sur un humour daté, sur une époque, sur un rire qui viendrait, je sais pas, se moquer, ostraciser certains ou certaines, c'est pas du tout ça, on est sur une autre logique, et dans cette recherche en tout cas d'un rire plus universel, plus général, où chacun rirait en même temps et peut-être pas pour les mêmes raisons, donc ouais, on est beaucoup là-dedans.
Est-ce que vous avez appris des choses justement sur le rire avec le travail des 26 000 couverts, des choses qui vous ont surpris?
Oui. Le rire, c'est quelque chose qui évolue sans cesse. Hein. On voit bien en regardant, je sais pas, il y a des choses qui ont énormément vieilli, qui ne font plus rire tout simplement. Et puis d'autres qui, parce qu'ils ont pris 20 ans, on découvre en fait du comique. Enfin, je sais pas, à l'instar de grandes influences que moi j'ai pu avoir, type les Monty Python, on peut les citer, ou Tati, ou des grandes figures comme celle-là. Qui je trouve vieillissent mais d'une autre façon, comme un peu comme un vin, c'est-à-dire qu'on va apprécier tous les 5 ans qu'on revoit le Flying Circus ou Playtime, on va apprécier différentes choses, et moi j'aime bien ça, ces expériences un peu ultimes. Là je pense peut-être plus à Tati et à son parcours artistique que moi j'adore, parce que justement il part d'un truc très burlesque, très cabaret, il fait des imitations de sport, et puis petit à petit il avance en plus assez seul. Enfin, je pense notamment à Playtime, qui est quand même pour moi un chef-d'œuvre. Vers des formes vraiment de plus en plus qui s'éloignent un peu de son public et qu'on le comprend moins. Et finalement, on découvre et on comprend 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard ce qu'il voulait faire. Et là, il est plus sur un comique plus abstrait, plus poétique, plus peut-être avec une nostalgie aussi qui moi m'intéresse beaucoup. Sur lui aussi, il parlait déjà d'un monde qui disparaissait. On peut toujours en parler, sauf que ça va encore de plus en plus vite. Moi, voilà, 50 ans, j'ai l'impression déjà d'être vieux par rapport à aux ados que je vois. Carrément, je comprends même plus. Et pourtant, j'ai pas l'impression de vivre non plus dans une grotte. Et j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en rire parce que c'est encore une fois avec le rire que ces choses-là peuvent passer justement, non pas dans la théorie, mais dans une sorte de, en même temps, de jouissance des choses et une nostalgie aussi, ouais. Ouais.
Quand on oppose le rire et le sérieux, on peut entendre le sérieux de deux manières. Ça peut être le sérieux au sens de quelque chose de sombre et le sérieux au sens de quelque chose de grave. C'est-à-dire, dans le texte qui accompagne l'Idéal Club, les 26 000 couverts, il y a l'idée, on aurait pu parler des choses graves, justement, de tout qui fout le camp, etc. Mais on a préféré rire. Finalement, ce sera pour un spectacle d'après.
Oui, c'est vrai.
C'était cette urgence-là aussi qui est apparue.
Oui, à l'époque, sûrement, mais bon, ça serait tout aussi actuel maintenant, peut-être même encore plus. Bien sûr, il faut s'engager, il faut dire des choses, mais j'ai parfois l'impression que, à force de dire et de s'engager, tout le monde le fait. Et il me semble que justement, c'est aussi important de se dégager, quoi, parfois. Il me semble que ça pourrait être aussi un peu notre fonction, notre rôle, de temps en temps. Alors, évidemment, alors on va nous dire, oui, mais ça, c'est du divertissement. Vous voulez divertir les gens, vous voulez les sortir des vraies préoccupations, des vrais problèmes. Ben, je dis, pourquoi pas? Il n'y a pas que la télé pour divertir. Il n'y a pas que le jeu vidéo ou, je pense que nous aussi, on peut, enfin, j'ai rien de, c'est pas un gros mot pour moi, divertissement. Divertir, c'est aussi amener ailleurs, c'est amener peut-être plus loin, plus haut. Ça me paraît important parfois qu'on oublie justement un peu le monde et puis pour rechercher un peu ailleurs, vers l'idéal, pourquoi pas, se détacher un peu de la réalité et pour tirer un peu nous-mêmes d'abord, puis les gens vers peut-être un peu plus de rêve, un peu plus de poésie, un peu plus d'utopie, parce que c'est l'utopie qui construit l'humanité, qui construit le monde, et il me semble que parfois il ne faut pas l'oublier.
C'est étrange parce que ouais, en voyant l'Idéal Club, je sais pas alors si ça relèverait de l'utopie, etc., mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'éléments qui font appel, et surtout dans les objets, extrêmement concrets. Je pense qu'il y a une tente Quechua, j'en parlais en introduction, il y a une tronçonneuse,
oui, c'est vrai.
Il y a des objets qui sont vraiment extrêmement matériels et des objets du quotidien. Et que, oui, ce serait plutôt un divertissement,
un barbecue,
qui serait plutôt de l'ordre, oui, du détournement. Enfin, du divertissement dans le sens où plutôt on se détourne, mais avec quand même des éléments du concret.
Ah oui, sûrement, sûrement. Oui, parce qu'il faut partir du concret, du réel. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre chemin. Moi, c'est ma façon d'être, enfin, observer le monde et à partir de cette observation, de l'emmener ailleurs. Et c'est vrai que l'objet quotidien, l'objet concret, la tronçonneuse qui marche, qui tourne, on le connaît tous, c'est ou le barbecue, la canette de bière, la saucisse, enfin, toutes ces choses, effectivement, qui traînent dans l'Idéal Club. Sont en effet un langage commun, un langage mais du coup qui fait partie de l'inconscient collectif de chacun. C'est déjà un élément mythique qu'une saucisse sur un barbecue. On est là pour raconter des histoires et donc partir de ce que chacun connaît. Et après encore une fois d'aller ailleurs, d'aller plus loin à partir de ces histoires-là, de ces éléments.
Et allô, allô, France Culture, par les temps qui courent, Romain de Bec de Lièvre avec Philippe Nicole.
Disque dur. ces disques durs.
L'artiste qui produit ne sait rien de ce qu'il produit, ne comprend rien à ce qu'il produit. Et c'est comme ça que ça peut être intéressant, c'est quand il ne sait pas ce qu'il fait. Il est le dernier à pouvoir juger ce qu'il fait. Et si vous demandez ça à tous les derniers, vous diront « je suis un imbécile et que je ne comprends rien ». Et si vous acceptez justement cette forme de renoncement à comprendre ce que vous faites, vous irez beaucoup plus profondément dans ce que vous ferez. Ne sachant pas ce qu'il fait, l'artiste n'est jamais responsable de ce qu'il fait pour ainsi dire. Mais il le fait parce qu'il y est poussé, s'il a vraiment quelque chose à dire, qu'il soit plus profond que la superficie. Et c'est intéressant justement de pouvoir dire, mais qui décidera ? Qui décidera, c'est très simple, la postérité s'en charge. A-t-elle raison ou tort ? C'est une autre question encore, là. Mais en tout cas, ce n'est pas l'artiste qui décide. Tous les artistes crient sur les toits qu'ils ont du génie. Ça fait partie de l'égoïsme exagéré de l'artiste individuel qui a besoin de cette confiance en lui. Autrement, il ne ferait jamais rien. Mais ça n'empêche pas que je trouve que c'est à tort qu'il y croit, mais en même temps, c'est une bonne chose pour sa production, parce que s'il a quelque chose à dire, au moins, ce sera là.
Philippe Nicole, on écoute la voix de Marcel Duchamp, une archive. Comment vous la recevez ?
Entièrement d'accord, mais parfait. Mais c'est d'autant plus marrant que Duchamp, disant ce qu'il dit sur le fait que l'artiste n'a pas conscience et n'a pas à avoir conscience de ce qu'il fait, enfin, et que ce qu'on dit de lui, c'est que justement, il a révolutionné tout l'art contemporain par le fait même qu'il expose une pissotière dans un musée. Mais lui-même, je pense qu'il n'avait pas conscience, en le faisant, qu'il allait inventer le postmodernisme dans l'art, en fait. Et c'est génial. Et ce qu'il dit sur l'égoïsme, enfin, le fait qu'on pense tous qu'on est géniaux, mais tout à fait, c'est tellement vrai. Enfin, on le constate tous les jours, quoi, auprès de tous les copains qu'on a. Non, super.
Dans l'Idéal Club, la postérité, parce que là, du coup, Marcel Duchamp parle quand même plutôt, on imagine, des arts plastiques, oui. Donc une forme un peu pérenne et qui reste.
Oui.
Vous, vous opérez plutôt dans le spectacle vivant et donc des choses plus mouvantes et éphémères. La postérité, on pourrait la voir, elle est incarnée par des personnages de spectateurs. Vous aimez à ce que certains de vos acteurs jouent les personnages de spectateurs, et notamment à la... Il y a un moment dans le spectacle, on ne dira pas si c'est la fin, où il y a une chanson des spectateurs.
Oui.
Comment c'est apparu cette chose-là ? L'idée de faire chanter les spectateurs et en tout cas d'accorder une place aux spectateurs.
Je ne sais plus trop. Il me semble que ce qui me faisait marrer, c'était que justement, on est beaucoup quand même avec ce spectacle, une sorte de montagne qui accouche d'une sourire. Enfin, toujours ce jeu un peu avec l'aspect un peu déceptif. Enfin, dès le début, je dis aux gens que ça va être un peu long, que c'est pas forcément génial, que tout n'est pas super. En effet, on commence par un truc déjà le karaté là qui est déjà foireux. Bon, on joue beaucoup sur le côté ratage. Bon, mais ça c'est une constante. Ça fait longtemps que nous 26 000 couverts, on est sur ce comique. Là aussi, hein, du ratage.
On n'est pas des acrobates, quoi.
Ouais, on n'est pas des acrobates. De toute façon, ça sera pourri, ce sera raté. Donc, ça me paraissait marrant d'aller au bout de ça et en effet, de mettre en scène les spectateurs qui sortent du spectacle et qui échangent leur ressenti. Bon, il se trouve que c'est deux spectatrices, en l'occurrence, qui sont quand même particulièrement énervées. Et ça m'amusait beaucoup parce que, encore une fois, c'est une sorte de mise en abîme, une façon de se regarder faire et de blaguer un peu avec ce qu'on échange tous après un spectacle en disant, ouais, bah, c'était intéressant. C'était sympa ton truc. Bon voilà, en gros on s'est fait chier pendant une heure, mais on veut pas trop le dire. Et ça m'amusait. Puis je pense qu'il y avait aussi une façon de se dédouaner, parce que au fond, comme on dit bien tout le monde que c'était long, que c'était un peu nul, que c'était à peine pro, etc. Ben voilà, c'est une façon de se dédouaner.
De quoi, de s'excuser
Non, pas du tout. Non, au contraire Non, il y a presque un côté un peu prétentieux, justement, parce qu'à la fin, finalement, on décide que c'était quand même pas si mal, parce que bon, on a une apparition un peu magique qui fait que tout le monde, tout ça, on est réconcilié autour de l'image mythique d'un poisson, on peut le dire, mais enfin, bon, pas trop fort.
Il y a un poisson.
Mais oui, parce que de toute façon, étant donné que notre parcours s'est beaucoup fait sur la rue, sur l'espace public, le théâtre invisible, on a fait beaucoup des canulars, des choses comme ça, parce qu'on a assez peu parlé de l'histoire, de la compagnie et tout ça, et peu importe, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que la question du public, elle a toujours été très présente quand même.
Le public a toujours été intégré
oui,
aux créations.
Oui, ça, par exemple, dans Shakespeare, dans Beaucoup de bruit pour rien, bon, bah, tout le spectacle se faisait au milieu du public. Il n'y avait pas d'acteur autre que dans comprendre le public qui était donc des faux spectateurs. Donc c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, même si c'était pas forcément pour théoriser, il a fallu qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un spectateur de théâtre, à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il dit, ou pourquoi c'est drôle, quelle est son attente et comment la combler ou la frustrer, etc. Et je pense que ça ressort aussi à travers l'Idéal Club.
Dans l'archive de Duchamp qu'on a entendu, il y a aussi l'idée que finalement l'artiste est pas trop responsable.
Oui.
Est-ce que vous diriez ça aussi?
Absolument, bien sûr, bien sûr. Il me semble que c'est important, encore une fois, qu'on sache apprendre des enfants, qu'on sache redevenir des enfants. Enfin, c'est ce qu'on attend de l'artiste. L'artiste qui serait lui-même un théoricien, un penseur, franchement, ça m'intéresse pas, quoi. C'est ça qui est d'autant plus paradoxal que ce soit Duchamp qui le dise, parce que pour nous, avec notre, avec les 50 ans qu'on a là qui sont passés, on a l'impression que c'est une sorte de théoricien, de mec, justement.
Figure tutélaire.
Philosophe. On l'a vu partout dans tous les, bon, moi j'ai fait les beaux-arts, mais Duchamp, c'était, en effet, la figure tutélaire philosophique. Or, je pense pas du tout, quoi. Ça correspond pas du tout à ce qu'était Duchamp dans la vie. Et moi, par exemple, je l'applique aussi beaucoup aux comédiens. Je pense que c'est vachement important qu'un acteur, avant tout, ce soit pas forcément un intellectuel. En tout cas, sur un plateau, j'ai pas du tout envie qu'on passe notre temps à discuter, à argumenter. Essaye les choses. Si c'est bon, ça va se voir tout de suite. Et c'est pas en théorisant, c'est pas en prenant de la distance avec ce qu'on fait, tout ça, forcément qu'on va y arriver. Donc oui, moi je crois beaucoup au fait qu'un artiste doit savoir rester aussi un naïf, en même temps un voyou et en même temps un enfant qui sache jouer avec tout, avec rien, et c'est ce qu'on attend des artistes. C'est comme ça qu'ils nous comblent et qui nous font du bien.
Est-ce que vous vous méfiez du sens que peut produire vos spectacles?
Bah, d'une certaine façon, j'essaie de tout faire pour quand même qu'il n'y ait pas de contresens, on va dire, parce qu'il n'y ait pas des choses qui m'échappent complètement. Je serais embêté, quoi, que c'est arrivé hein, déjà parfois que des gens se disent « Ah oui, c'est ça qu'ils nous disent », et non, en fait, pas du tout. Et ça peut être des erreurs, hein, tout simplement, des erreurs de fabrication. Après, le sens, bah, comme il dit, hein, je pense que il me semble qu'un spectacle, à partir du moment où il est né, où il a vu le jour, il commence à appartenir au spectateur d'une certaine façon. Je sais que c'est impossible pour moi d'appréhender toute la multitude des interprétations qu'on va avoir d'un spectacle. Donc moi, ma théorie, ma recette, c'est juste de se dire, ben maintenant, moi, je veux créer un spectacle, je veux être le premier spectateur de ce spectacle, donc je veux le spectacle de mes rêves, mon spectacle idéal, et c'est la question qu'on pose dans l'Idéal Club. Et voilà, moi, ma méthode, c'est celle-là, c'est qu'avant tout, moi, qu'est-ce qui me fait rire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'émeut, qu'est-ce qui me touche, en espérant, en faisant le pari, que ce qui me touche va toucher une multitude, en tout cas des gens, et que ça va les intéresser. Et après, le sens, bien sûr qu'il doit nous échapper aussi. Je pense qu'un spectacle, c'est un peu comme un organisme vivant, une plante, un arbre. Il part et à un moment, même si on peut de temps en temps un peu le tailler, mais il est important de pas non plus trop le tailler pour qu'il puisse se développer et prendre la forme qu'il voudra aussi à un moment.
Dans l'Idéal Club, avec la succession des numéros et donc cet aspect de la résidence où les artistes réfléchissent, il y a cette idée qui est énoncée à un moment, je crois me rappeler, que finalement on n'invente jamais rien.
En tout cas, dans le théâtre et dans ce qu'on fait, j'ai jamais mis une valeur exagérée au fait qu'on soit les premiers à créer. Par exemple, beaucoup de bruit pour rien, donc un canular que je veux pas raconter ici, mais une forme quand même, quelque chose d'assez osé par rapport à ce qui se passait avec le public, dans la manipulation et dans la violence qu'on pouvait quand même amener par rapport à un public, même si c'était une violence calculée et qu'on arrivait à convertir par le rire. Bah, par exemple, il me semble que peu de gens avant nous l'avaient vraiment fait, même s'il y avait eu des sortes de tentatives. Mais là, il y a une sorte de geste clair et assez radical. Mais en même temps, pour moi, l'important, il n'était pas tant là que où on allait les emmener après le fait de les virer du théâtre et tout ça. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, je reste un peu flou parce que comme c'est un petit peu un secret, ça, je vais pas tout raconter. Mais pour ceux qui l'ont vu, ils savent qu'il y avait un geste comme ça un petit peu violent. Mais ce qui m'importait plus, c'est justement qu'est-ce qu'on faisait de cette invention, de ce geste-là, où on allait. Moi, pour moi, une invention, ou en tout cas quelque chose d'un peu, un geste comme ça, un peu particulier, très personnel, il n'y a rien d'autre qu'une façon de d'ouvrir un peu la conscience, la sensation du spectateur pour lui amener justement d'autres éléments, peut-être plus poétiques, peut-être plus comiques, enfin, une façon aussi de l'amener à nous. Et en tout cas, en théâtre, à mon avis, l'invention, enfin, c'est pas une valeur qui, moi, m'intéresse particulièrement.
Est-ce que dans l'espace du théâtre ou dans l'espace de la rue et dans le moment où il y a la rencontre entre le spectacle et les spectateurs, il y a quelque chose qui justement pour vous relève du secret ou en tout cas du mystère? Enfin, est-ce que pour vous c'est quelque chose d'important?
Absolument. Je pense que ce qui se passe sur une scène ou en tout cas sur cette chose qu'on a inventée, qu'on a dit à un moment que c'était une scène, puisqu'en effet, comme on a travaillé partout, hein, dans des supermarchés. Enfin, je veux dire, on a fait des fausses manifs. Enfin, donc bref, ce que je veux dire, c'est que la scène, c'est ce qu'on décide à un moment. Mais il y a toujours une chose comme ça qui ne se raconte pas, de l'ordre de l'irracontable, parce que sinon on ferait pas ça, on ferait pas du théâtre, on ferait, je sais pas, du cinéma, on ferait de la littérature. Mais il y a quelque chose de magique, et j'y crois très fort dans le rapport humain. C'est la base même de mon travail, de mon engagement et d'une autre à 26 000 couverts. Et c'est pour ça, par exemple, que on mène une lutte assez forte sur le fait qu'on refuse les images, on veut pas être filmé, et parce que je considère que le théâtre n'est pas filmable, en tout cas le nôtre. Un film ne sera jamais à même de reproduire ou même de témoigner de cette vibration, de cette énergie particulière qu'il va y avoir dans l'air. Donc, et également, pareil, sur Internet, c'est pour ça qu'on trouve très peu de traces du travail de 26 000 couverts, parce qu'on fait la chasse à ça, véritablement. J'ai pas du tout envie que les gens voient une sorte de ressucé un peu plate, d'images qu'on crée, par exemple, dans l'Idéal Club, et qui n'ont aucun intérêt à être filmées. Donc, je sais pas si ça répond exactement à votre question, mais il me semble qu'en tout cas, sur une scène, ou dans le rapport entre un acteur, donc un être humain qui se lève et qui parle, et un autre qui est là et qui l'écoute, il y a quelque chose de particulier et de très précieux qu'il faut absolument préserver. Et je dirais même que plus le monde va dans le sens des écrans, plus on a des écrans partout, des images partout, plus ce rapport particulier d'être humain à être humain va devenir précieux. Et il me semble qu'il faut qu'on aille absolument dans ce sens-là. Nous, en tout cas, c'est notre fond de commerce, mais en même temps, vraiment notre plus-value, notre trésor de guerre, c'est cette relation toute bête, toute simple entre deux humains qui se regardent et qui se parlent.
Un spectacle, c'est un échange d'énergie très fort. On ressent énormément d'énergie très différente chaque soir et parfois sur des moments exactement la même tous les soirs. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose, ouais, qui se recharge en fait comme des batteries, quoi. Moi, par exemple, je commence souvent le spectacle complètement fatiguée avec des cernes ahurissantes et je le finis surliftée. Du coup, c'est assez étonnant. Souvent, je peux pas dormir jusqu'à 5h du matin après le spectacle. Après, il y a un truc aussi que Vincent McCain dit, qui moi me touche énormément. Il dit que lui, il essaye de créer comme quelqu'un qui serait au milieu d'un lac et qui taperait toutes ses forces sur l'eau pendant un temps donné. Et qu'après, il arrête et le lac redevient calme. Et je pense que là-dessus, moi, ça me parle beaucoup, je pense. Et aussi sur le fait très très drôle de voir quelqu'un faire ça, et d'absolument désespérant, et d'absolument en même temps... Le fait que le lac redevienne calme après, c'est pas en vain, en fait, je pense, de faire ça du tout, parce que c'est aussi montrer qu'il y a rien qui va dérober l'amour à la rage d'aimer, quoi. Le fait de, je pense que ce qu'on essaye de faire, c'est de, ouais, de montrer qu'on peut toujours être féroce, quoi, et en action.
Philippe Nicole, on écoute la voix de Vima Laponce qui était l'invité de Parler Temps qui court l'année dernière et qui parle de la place de l'énergie scénique, elle, dans sa pratique théâtrale. Est-ce que l'énergie, c'est quelque chose qui importe aussi aux 26 000 couverts?
Bon, certainement. Après, je pense qu'on a tous une définition particulière de ce mot-là, énergie, c'est un peu vague. Mais disons que par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on pourrait appeler ça aussi une forme d'énergie, en tout cas une sorte de tension particulière entre deux pôles, hein, de comme le plus et le moins de la batterie, c'est de l'énergie et il me semble qu'il y a exactement ça. On peut parler de ça, d'une énergie qui passe entre la scène et la salle, certainement, oui.
Il y a cette image du lac, l'image de Vincent Macken, du lac sur lequel on va battre, on va faire bouger l'eau pendant assez longtemps et ça va revenir au calme.
Ouais.
Est-ce qu'elle vous parle?
Assez. C'est pareil, c'est un peu comme Duchamp, je pense qu'il faut voir un peu le bonhomme, quoi. Macken qui tape avec une rame sur un lac, oui, je vois très bien de quoi il parle. J'aurais peut-être pas utilisé la même image, mais pour Macken, ça marche très bien. Ouais.
Et c'est effectivement drôle.
Oui, c'est très drôle.
De l'imaginer comme ça.
Oui, tout à fait.
Dans la...
Sauf pour les poissons. Bref.
Les poissons, on y revient. La forme qu'a pris l'Idéal Club, et cette forme notamment qui emprunte au musical et au cabaret, avec notamment la place de la musique, puisqu'il y a un orchestre qui vous accompagne sur scène tout le temps. Moi, je l'ai vue comme une forme ouverte, au sens où elle peut accueillir énormément de choses différentes. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez pensé?
Alors oui, certainement, bien sûr, l'idée de l'ouverture, elle est forcément en avant, mise en avant, bien sûr, absolument. Notamment alors par rapport à la musique, parce que il me semble que c'est rarement, ça fonctionne rarement, enfin moi dans l'expérience de spectateur, mais aussi de metteur en scène que j'ai pu avoir par rapport aux musiciens, c'est toujours un peu ambigu, délicat, on n'est pas exactement sur les mêmes codes. Et il me semble sur l'Idéal Club, il y avait cette idée-là aussi d'accueillir vraiment la musique par rapport aussi à ces individus-là, ces musiciens-là, Daniel Scalier, Sébastien Bacas, Émeric Descharrières, qui venaient vraiment avec leur monde, leur univers de musiciens, leur composition, leur façon de faire, et en même temps sans justement les diluer, comme souvent on voit dans certains spectacles où le musicien il a perdu un peu sa présence un peu magique, un peu chamanique que moi j'adore, quoi. Je veux dire, quand je vois un concert quelque part, ça me suffit, quoi. S'il est bien dedans, s'il est bien là, ça me va complètement. Et c'était l'idée de mixer en même temps cette énergie, justement cette force là de la musique live, vraiment en concert, et l'aspect plus comique, sketch, numéro. Et c'était un peu ce que je voulais à l'origine, et d'être presque entre le concert et le spectacle, parce que parfois on est presque un peu, ça peut faire un peu penser à un concert, parce que le morceau il est là tel que, on l'a pas touché, pas retouché forcément, et parfois il y a quelques petites expériences de mix entre eux et nous, voilà. Mais oui, en tout cas ça va dans le sens de ce que vous disiez d'une ouverture, mais certainement oui. Ben, quand on parle d'idéal, comment ne pas parler d'ouverture?
Vers la fin du spectacle, il y a ce moment qui va avec cette idée aussi de l'idéal, où vous donnez des noms, vous faites il y a une désannonce du concert,
ouais.
Et alors je me souviens plus des noms des gens connus, mais oui. Il y a Chet Baker, je sais plus exactement.
Ben ça change de temps en temps selon l'inspiration du présentateur.
Qu'est-ce qu'il y avait c'était l'idée de réunir tous les meilleurs artistes du monde et de se dire que...
Ça se réfère au petit passage, vous savez, où j'interroge les acteurs sur leur spectacle idéal et où Florence se dit, moi mon spectacle idéal, je serais au-dessus d'un escalier un peu Broadway. Puis j'aurai à ma droite, j'aurai Bowie, à ma gauche, j'aurai Lennon, puis on chanterait une chanson, puis c'est Chopin qui nous accompagnerait. On est parti de cette idée-là. Un cabaret idéal pourrait être un cabaret formé par Bowie, Chopin, Nietzsche, etc. Et qui aurait pu être Chet Baker ou Charles Mingus. Bon, et c'est parti de là. Et ça nous a permis aussi de nous distancier un petit peu de la présentation classique des acteurs, même si ça nous plaisait bien de le faire, mais avec des faux noms. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il m'appelle Ariane Mnouchkine à chaque fois. Ah, ça me va, quoi.
Est-ce que vous qualifieriez le travail de 26 000 couverts de quelque chose qui relève de la pop? Au-delà du fait que du populaire dont vous avez parlé tout à l'heure, mais vraiment de la pop. Avec dans la dimension musicale que ça comporte.
Ouais, alors dans l'inspiration, certainement. Je veux dire, on est tellement influencé. C'est aussi, je pense, une question de génération, certainement. Mais enfin, moi, j'étais très influencé, bien sûr, par cette forme de poésie, de rapport au monde presque, en même temps destroy et en même temps poétique, aimant, avec un peu planant, tout ça me plaît beaucoup, donc j'espère, c'est bien ce que vous l'ayez vu en tout cas. Ça, alors c'est vrai qu'il y a des références directes aux Beatles, à Morricone, alors c'est vrai que c'est carrément une époque, mais ouais, super. Ça me va. Pop.
Le prochain projet des 26 000 couverts, il va intégrer de l'écriture avec le projet avec Gabor Rassoff.
Ah oui, ah oui, tout à fait. Oui, oui. Alors c'est le prochain, enfin, sauf qu'il est un petit peu déjà fait puisqu'on l'a sorti à Dijon chez nous donc l'été dernier. On en a fait 10, une sorte de petite période de rodage. Donc c'est un texte qui s'appelle Véro Première, Reine d'Angleterre, de Gabor Rassoff. Et donc c'est vrai que ça constitue une première, mais presque, puisque je travaille très rarement à partir d'un texte écrit. Mais bon, il se trouve qu'il y avait une collaboration avec Gabor Rassoff qui dure depuis pas mal d'années. Et ça devenait vraiment logique que je monte un de ses textes. Il se trouve qu'il l'a écrit il y a peu de temps, donc tout ça était pas mal d'actualité. Ça tombait bien. Au niveau de la distribution, il y a eu pas mal de rencontres qui se sont faites. Et donc, en effet, ça part plus de quelque chose d'écrit. Donc c'est un autre exercice, c'est un mélodrame. Un mélodrame évidemment au second degré, un mélodrame très très drôle en fait, mais une sorte de succession de malheurs qui s'abat sur cette pauvre Véro jusqu'à son accession au trône de reine d'Angleterre. Et c'est du théâtre forain, il y a des caravanes, une sorte de scène remorque qui se déplie, et c'est en plein air, et ça viendra jouer à Paris l'été prochain avec Paris d'été, et ça va être sur pas mal de festivals de rue, donc c'était aussi une façon de renouer avec la rue, mais à partir du texte, donc c'est bien, c'est une forme de contribution et une nouvelle étape dans notre parcours.
Merci.
Merci de votre invitation.
Le spectacle L'Idéal Club, c'est au Montfort Théâtre à Paris jusqu'au 12 janvier. When the days go slow and your winds don't cry no more, show them how your dream can blow. No hands. She wears a curse and she stands with a wary voodoo story that she hopes to be her beauty in the end. Through the sur la musique des Mocking Dead Bird, le groupe qui accompagne les 26 000 couverts, par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h. Ce soir au son, c'était Jean-Michel Benoît, Lise Combe à la réalisation. Merci à Anna Baron et Camille André qui préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast. On her lips, well, I see horses.